France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est d'abord cette décision tombée dans la nuit. Les quatre policiers qui ont passé à tabac le producteur Michel Zecler la semaine dernière ont été mis en examen. Deux d'entre eux ont été écroués pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, avec plusieurs circonstances aggravantes, notamment propos à caractère raciste et faux en écriture publique. L'enquête est désormais confiée à un juge d'instruction. En garde à vue, à l'IGPN, les trois principaux mis en cause ont fini par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et ont invoqué la panique. Le procureur a indiqué que les quatre fonctionnaires étaient jusque-là très bien notés. Une sanction qui tombe en pleine polémique sur la loi de sécurité globale votée par le Parlement et son article 24 visant à empêcher de filmer les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit être auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Les députés veulent l'entendre sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force ces derniers jours, notamment lors de l'évacuation de migrants place de la République à Paris. Au moins 110 civils ont été égorgés samedi au Nigeria, alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, selon un nouveau bilan des Nations Unies. C'est l'attaque la plus meurtrière menée contre des civils cette année dans le nord-est du pays. Le Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Nous y reviendrons dans notre journal de 7h30. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme devrait annoncé aujourd'hui qu'elle donne suite à une requête liée au climat contre 33 pays, dont la France, une plainte déposée en septembre dernier par 6 jeunes plaignants portugais. Enfin, c'est aujourd'hui que sera remis le Goncourt 2020. Sans déjeuner chez Drouon ni annonce devant une forêt de micros, 4 auteurs sont encore en lice. Hervé Le Tellier, Maël Renoir, Jaili Amadou Amal et Camille de Toledo. Exceptionnellement, l'annonce du lauréat a été décalée en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des librairies. C'est la première fois depuis 1914 que le protocole de remise du prix se trouve bouleversé.
Ce mardi, je reçois une journaliste, une médecin en santé publique, un ingénieur agronome, un vrai cocktail d'énergie positive pour éviter de broyer du noir.
Sur France Culture, Aurélie Luneau.
Les feux sont donnés au rouge, l'éco-anxiété gagne du terrain et s'ajoute à la morosité du moment. Mais avec Laure Noya, Alice Desbioles et Pablo Servigne, au-delà de l'état des lieux, nous vous parlerons des solutions qui existent pour ne pas finir écolo-dépressif et pour enclencher un sursaut salvateur.
Nature, environnement, de cause à effet, ce mardi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Inédit sur France Culture, Le Grand Moulne, célèbre et unique roman d'Alain Fournier. Un programme de lecture intégrale réalisé et diffusé en direct dans le feuilleton. Fin du 19e siècle dans un village de Sologne. Un jour, arrive Augustin. Le mystère de celui que tous appellent bientôt le Grand Moulne va bouleverser l'adolescence de François, le narrateur, le plonger dans une aventure qui déterminera toute sa vie. Lu par Pierre-François Garel, en direct de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h03 sur France Culture, tout de suite le monde vivant de Bruno David et ce matin une larve éternelle ou presque.
Le baron Johann Weichart von Valvasor est un érudit qui participe à l'essor scientifique de la fin du XVIIe siècle. Dans le duché de Carniole, au centre de la Slovénie, il s'intéresse à tout et publie en 1689 « La gloire du duché de Carniole ». Il y est question du lac de Tchernica qui s'assèche une partie de l'année. Les paysans locaux expliquent au baron que si l'eau du lac disparaît, si la source de la petite ville d'Oberlebeck est intermittente, c'est que sous terre existe un dragon qui évacue l'eau. Explication plausible, car pour bien des naturalistes de l'époque, les dragons existent. Ce n'est pas le cas du baron, à qui l'on précise que si les dragons sont immortels sous terre, ils meurent s'ils remontent à la surface. La preuve, on en a vu dans le lac, et un jeune dragon a été capturé mort. Que le baron aille voir le spécimen chez le maître de poste qui l'a conservé. Le baron a la vérification chevillée au cerveau. Il se rend donc chez le maître de poste. Devant le bébé dragon séché, il hausse les épaules. « C'est ça votre dragon ? Ce n'est qu'un ver souterrain à une vermine, déclare le baron, qui par ailleurs interprète l'intermittence des lacs et des sources comme des effets de la circulation des eaux dans les grottes karstiques dont cette région est riche. » En 1768, un médecin naturaliste viennois, Josephus Nicolaus Laurenti, décrit l'animal et lui donne le nom de Proteus anguinus. Le protée, ou encore protéanguillard, car avec ses pattes très courtes, il ressemble à une petite anguille, va devenir le plus célèbre représentant de la faune cavernicole, au point de devenir emblématique de la Slovénie. La plus ancienne revue slovène de vulgarisation scientifique est baptisée Proteus. Les Slovènes l'appellent le poisson humain, probablement en raison de sa peau pâle et rosée. On l'appelle aussi salamandre blanche ou salamandre des grottes. En effet, ce n'est pas un poisson, mais un amphibien. Mais un amphibien spécial, qui arbore un panache de branchies rouges qu'il conserve toute sa vie. Cela nous amène à une première curiosité de cet amphibien. Il ne se métamorphose jamais, contrairement aux salamandres ou grenouilles. Il atteint l'âge adulte alors que morphologiquement, il a encore l'apparence d'une larve avec de belles branchies externes. Ne comptez pas sur le temps pour le voir se métamorphoser. Car, autre curiosité, le protée ne vieillit pas. Cet animal peut continuer à se reproduire à l'âge de 100 ans et vivre encore plus longtemps. Ce phénomène de sénescence négligeable vient d'une capacité à régénérer ses tissus. Troisième curiosité, il est extrêmement résistant au jeûne et peut passer 10 ans sans manger. L'espèce est protégée depuis 1922 dans son habitat naturel en Slovénie. Elle est par ailleurs élevée dans des milieux cavernicoles de divers pays européens pour des études scientifiques sur le vieillissement. Pas étonnant que cette vieille larve des cavernes nous fascine. L'étrange vermine du baron n'a pas fini de nous ébahir.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil Culturel. Le Réveil Culturel, c'est tous les jours de la semaine, tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. Et tous les lundis, une prescription littéraire pour bien commencer la semaine. Aujourd'hui, un premier roman, encore un premier roman, très remarqué d'ailleurs cette année, « Un jour, ce sera vide » de Hugo Lindenberg, paru aux éditions Bourgois. Le narrateur de ce roman est un jeune orphelin de 10 ans qui passe ses vacances d'été en Normandie avec sa grand-mère et sa tante. C'est un beau roman à hauteur d'enfant sur le poids des traumatismes de l'histoire, sur les constructions identitaires et sur le déterminisme social.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Quand papa m'emmène au cinéma, je dois mesurer mon enthousiasme parce que je vois bien la déception dans son regard quand je dis, en sortant, que c'est mon film préféré. Mon père est souvent déçu. Jamais autant que la fois où je lui ai dit que je voulais être un chat, mais quand même. Qui veut la peau de Roger Rabbit n'a apparemment pas les qualités requises pour être un film préféré. La rose pourpre du Caire non plus. Pourtant, La rose pourpre du Caire, j'y repense souvent en ce moment. Ça raconte l'histoire d'une femme malheureuse qui va tout le temps au cinéma voir le même film pour oublier son existence morose. Un jour, son personnage préféré sort de l'écran et vient à sa rencontre dans la vraie vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Baptiste. Jusqu'à notre rencontre, j'allais à la plage pour le spectacle des familles. Je posais ma serviette un peu au hasard et pendant que ma grand-mère tricotait à côté de moi, je m'installais pour espionner une famille. En général, il y en avait deux ou trois à une distance idéale pour que je les entende bien. Si j'avais de la chance, parmi elles, il y en avait une avec des enfants de mon âge. Les couples et les gens seuls m'intéressaient moins, parce que ce qui excitait ma curiosité, c'était de voir des parents avec leurs enfants. Le quotidien banal d'une famille normale. C'est un extrait donc du premier roman de Hugo Lindenberg, « Un jour, ce sera vide ». Sur une plage normande, un jeune orphelin solitaire passe ses vacances avec sa grand-mère et sa tante folle, qu'il déteste. En tuant des méduses sur la plage, il fait la connaissance de Baptiste, un enfant de son âge, son exact contraire, un garçon solaire qui va vite devenir l'ami, le frère qu'il n'a jamais eu. Bonjour Hugo Lindenberg.
Bonjour Toufik Hakem.
C'est donc l'histoire d'un enfant de 10 ans. C'est lui le narrateur de votre roman. On a l'impression que cette histoire se passe dans les années 80. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un caractère autobiographique dans ce premier roman publié ?
J'ai entendu Annie Ernaux il n'y a pas longtemps qui disait « j'écris pas sur moi, mais à partir de moi ». Et je trouve que ça reflète assez bien la manière dont j'ai travaillé avec ce roman, c'est-à-dire en partant de motifs ou de scènes primitives qui m'avaient marqué, et puis pour raconter une histoire qui, elle, n'est pas mon histoire. J'ai repensé par exemple à Chris Marker dans La Jetée, qui commence par « Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance ». Et il y a cette idée que quand on a vécu des événements assez forts dans son enfance, ils nous tiennent un peu prisonniers, ou en tout cas ils nous donnent une voie d'accès au passé. Et ça m'intéressait pour revenir à ce moment de l'enfance où l'identité est encore très floue, où la frontière entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi est poreuse. Je voulais travailler sur ce motif-là, et donc oui, effectivement, en partant de sensations que j'avais pu avoir moi-même quand j'étais enfant, mais pour raconter une histoire qui n'était pas tout à fait la mienne.
Votre roman est construit avec des instantanés, ce sont des chapitres très courts, et le narrateur est cet enfant de 10 ans, c'est-à-dire se mettre à parler comme un enfant, à voir la vie à partir d'un regard d'enfant. D'abord, c'est un défi littéraire que vous relevez très bien dans ce premier roman, Hugo Lindenberg. Mais pourquoi ce choix qui est tout sauf facile ?
Je dirais que souvent, on écrit, puis après, on se donne des excuses pour avoir écrit. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais forcément décidé, tout comme de placer mon roman à la mer. Toujours pour cette histoire, justement, de scènes privatives ou de motifs comme ça, un peu obsessionnels, sur lesquels j'avais envie de revenir. Donc, j'ai commencé avec cette contrainte qui a effectivement rendu l'écriture assez laborieuse par moments, parce que elle m'interdisait tout un tas de choses. Et en plus, je voulais, comme c'est un roman sur le silence, qui est énormément de hors-champ, et que rien soit jamais expliqué. Donc je travaillais avec cette double contrainte de ne pas vraiment raconter ce que je voulais raconter, et de le faire à hauteur d'enfant. Tout en gardant à l'esprit que je pense pas que les enfants, même s'ils sont pas forcément capables d'exprimer les choses avec la même aisance ou qu'un adulte, ils ont quand même une voix intérieure qui est déjà très élaborée, avec des sensations très élaborées.
Et tout le roman, c'est un enfant de 10 ans qui va découvrir ses différences, qui va même répertorier toutes les différences qu'il a avec les autres enfants de son âge qu'il rencontre durant cet été passé avec sa grand-mère et sa tante, et notamment en rencontrant justement ce garçon qu'il admire et qui représente à peu près tout ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire l'aisance, le côté solaire, une famille, une maison.
Oui, c'est vraiment un enfant qui est né dans une famille où les silences sont très présents. Même le silence est un peu une structure relationnelle, si on peut reprendre un peu l'expression de Raphaël Branche. Et du coup, lui, il ne sait pas. Il doit découvrir. Enfin, c'est en arrivant vraiment à la plage que tout à coup, il est fasciné par le spectacle des familles et il se rend compte à leur contact, dans cette espèce d'intimité comme ça qui s'élabore en public, de tout ce qu'il n'a pas. Et il est d'abord dans une pulsion scopique très forte, il regarde comme ça, comme un spectateur.
Et après, il va rencontrer Baptiste.
Et il va rencontrer Baptiste, exactement, qui va lui ouvrir un peu les portes de cette famille fantasmée, de cette famille parfaite qu'il a. Et tout à l'heure, le passage que vous avez lu en introduction, c'est un passage sur à la fois cette idée de spectateur et cette idée de déception. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de raconter... comment le narrateur va vivre sa fascination à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de sa relation avec Baptiste.
Et l'idée, c'est de décrire ce que voit cet enfant, comment il le ressent, mais aussi tout ce qu'il imagine, tous les rêves qui l'accompagnent dans son réel.
Oui, je pense qu'il est à ce moment de la vie où il y a encore une grande porosité entre le réel, l'imaginaire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas, et dans son cas précis aussi, le monde des morts et le monde des vivants, parce que il est né dans une famille qui a vécu plusieurs drames, des drames intimes et des drames historiques, mais dont on lui a pas parlé, et dont il y a un vrai problème de transmission, et donc il navigue comme ça entre le monde qu'on lui présente et les blancs qu'il doit lui-même remplir. Et ça, ça l'oblige à un grand travail d'imagination. Donc il est comme ça dans un monde un peu où il y a beaucoup de fantômes.
Et puis c'est un roman sur les émotions d'un enfant, c'est-à-dire comment il peut admirer quelqu'un d'autre, l'envie, mais aussi le désir, il y a aussi la peur et la honte d'être l'enfant accompagné par une grand-mère qui a un accent très prononcé et une tante qui est schizophrène, où on devine qu'elle est schizophrène et qui lui fait beaucoup honte quand elle apparaît dans son univers avec d'autres gens sur la plage où il passe ses vacances.
Oui, ça m'intéressait beaucoup, ce sentiment de honte. D'abord, c'est un sentiment universel, et puis je trouve qu'il accompagne souvent les silences, et effectivement, lui, il vit dans ce monde qu'il ne comprend pas très bien. Il vient d'une famille d'immigrés, il y a effectivement cette tante folle, et quand il voit tout à coup les autres familles, il a l'impression que le monde est fait pour elle, le monde est fait pour Baptiste. Baptiste, il évolue de manière très légère dans ce monde-là, tout est fait pour lui. Or, lui, il a un sentiment de difficulté face aux choses, et il voit bien qu'il n'est pas comme ces gens, donc il nourrit un sentiment de honte. Et ça m'intéressait aussi de raconter à travers la figure de la tante qui est folle, mais qui en fait a été rendue folle par les silences de la famille, de raconter comment la haine qu'il éprouve pour elle est en fait une sorte d'amour. Elle représente un peu le golem dans cette famille, c'est-à-dire qu'elle est faite des silences et de la folie réprimée de toute cette famille. Elle l'exprime d'une certaine manière, alors ça le dégoûte, mais en même temps, c'est la seule qui parle.
Mais alors, qui parle à cet enfant? On a l'impression qu'il a grandi avec des silences.
Oui, je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles qui ont subi des traumatismes, et puis dans les familles en général, on a le goût du secret. Et je trouvais ça intéressant d'essayer de voir comment le silence se répand d'une génération à l'autre, puisque là, ça court sur 3 générations, et comment il va impacter la construction de cet enfant.
Sur une plage en Normandie, allongé sur le sable fin, devant les vagues qui se plient, un corps est là qui ne dit rien. Rien dans ses yeux, rien dans ses mains, ni sur sa bouche. Dans ses cheveux, dans son chagrin, rien ne la touche. Rien que le ciel ou le soleil ne viendra pas crever tout ça. Combien de joie, combien de temps qui se libère quand on est seul et que le monde ne sait pas qu'il y a là.
C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui passe l'été à la plage avec sa grand-mère et sa tante schizophrène. C'est lui, le narrateur de ce premier roman d'Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, édité par Christian Bourgois. Et ce narrateur observe les gens autour de lui, les familles, les vraies familles, comme il dit, car sa famille à lui est différente et donc il se sent un peu lui-même exclu. Il évite les autres enfants jusqu'à cette rencontre avec Baptiste. Il y a une ambiguïté, Hugo Lindenberg, dans cette relation entre ces deux enfants. C'est vrai que Baptiste, il représente un peu tout ce qui n'est pas, tout ce que le narrateur de votre roman n'est pas, parce qu'il a l'aisance de parler, de bouger, d'affronter les autres garçons de la plage, d'avoir une famille bien structurée. Mais au-delà de tout cela, c'est-à-dire au-delà de ce bonheur fantasmé par votre narrateur et que Baptiste représente très bien d'une manière, on l'a dit, lumineuse, il y a toute cette ambiguïté sur l'attraction entre ces deux garçons.
Je l'ai pas trop perçu, moi, pendant l'écriture, cette attraction. J'ai l'impression que oui, il y a une sorte de confusion des sentiments qui est propre à l'enfance, qui fait que le narrateur, il n'est capable que de détestation totale ou d'amour total. Mais je pense qu'il n'a pas encore conscience vraiment non plus de ses désirs. Et ce qu'il ressent pour Baptiste, c'est l'envie de le manger, de le tuer. c'est-à-dire quelque chose de total. Il voudrait vraiment comprendre comment est fait Baptiste, il voudrait être Baptiste, mais en même temps, l'idée même de l'existence de Baptiste est un poids pour lui. Donc il est comme ça, dans des sentiments très contradictoires.
Oui, parce qu'il a envie de le supprimer, et en même temps, et au même moment d'ailleurs, il a peur de le perdre.
C'est ça, je pense que je voulais raconter ces sentiments très contradictoires qu'on peut avoir, parce que à la fois c'est vraiment une joie pour lui de savoir que des gens comme Baptiste existent et puis et qu'il peut être ami avec eux, mais en même temps c'est une vraie douleur de se comparer et de voir le chemin qu'il reste à parcourir pour vraiment faire partie du monde des vivants.
Un été en Normandie, à la plage, vu à partir donc du narrateur, qui est un enfant de 10 ans, qui va rencontrer un autre enfant de son âge. Il ne se passe rien, tout est intériorisé dans une très belle écriture. Tout est dans les silences, les gestes, les rêves de cet orphelin de 10 ans, les absences pesantes, et puis aussi comment un gamin voudrait sortir d'une zone trouble où il doit affronter le regard des autres et donc la honte sociale et familiale. Un autre extrait d'Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg. Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge, à cause sans doute de cette ressemblance supposée. Baptiste, par exemple, a toujours l'air de faire partie du décor, à tel point qu'à force de plage, sa peau semble faite du même grain que le sable. Les vacances lui vont bien. Il en épouse si aisément l'onde qu'il me faut toujours un temps pour distinguer sa silhouette lorsque je le cherche dans la cohue. Il est le mouvement. Son corps met le monde en mouvement alors que tout semble buter sur le mien. Il y a quelque chose en moi de pétrifié. Ça le fait rire d'ailleurs parce que je n'arrive à rien. Ni à tenir sur une planche, ni à nager le crawl, ni à faire la roue. Tout ce qui va trop vite m'effraie. Mais ce n'est pas ce qu'il peut faire et dont je suis incapable qui me fascine le plus. Ce qui fait de Baptiste un vrai garçon, un garçon exceptionnel, c'est qu'il n'a besoin de rien pour en être un. À moi, cela demande une concentration permanente. Je dois toujours bien penser à mettre une intention de garçon, de ce que j'imagine être un garçon, dans chaque phrase, chaque geste, chaque idée, parce que je vis dans la peur d'être démasqué. Et cette peur est d'autant plus difficile à maîtriser que je n'ai qu'une idée grossière de ce que doit dire, faire ou penser un vrai garçon.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Tout ce qui va trop vite m'effraie, dit-il. Pourquoi, Hugo Lindenberg ?
Je pense que le narrateur, il est vraiment empêché de vivre par le silence, les questions qui se posent, ce monde dans lequel il avance un peu à tâtons, parce qu'on lui a pas vraiment donné les clés pour le comprendre ou pour s'y mouvoir avec aisance, alors que Baptiste, si, il a sûrement pris des cours de violon, appris à nager avec son père, toutes ces choses qui font qu'un enfant se sent à l'aise pour avancer dans la vie.
Mais alors, comment expliquer le drame de la Shoah, les drames familiaux, un enfant de 10 ans, Hugo Lindenberg?
On
comprend aussi sa famille, les silences de sa famille, les silences qui, pour le protéger, on suppose.
Oui, et d'ailleurs, je suppose que dans beaucoup de familles, ces structures relationnelles qui se tissent autour du silence ont pour but de protéger les enfants, et c'est souvent un échec cuisant. Et dans mon enfance à moi, c'était pas tant la Shoah par exemple qui était tabou en elle-même, mais c'était ses répercussions sur nos vies à nous. C'est-à-dire qu'on pouvait en parler comme d'un fait historique, moins de ce qu'elle avait produit au sein de notre propre famille. Et je pense que c'est plus là que l'enfant a un manque dans le livre, c'est-à-dire que la parole sur la Shoah, mais du coup sur tout le reste, est coupé.
En exergue à votre premier roman, Hugo Lindenberg, vous citez Nathalie Sarotte avec cette phrase extraite de Tropisme, ce bruit soudain de l'eau dans ce silence suspendu, ce serait comme un signal.
Oui, c'est extrait d'un des tableaux de Tropisme, qui est un livre pour lequel j'ai une immense admiration. Je trouve que c'est un livre qui se lit comme on regarde un tableau. Elle arrive à y faire exister des sensations qui se trouvent, qui sont très primaires, qui se trouvent avant la pensée, avant qu'on ait eu le temps de les élaborer, et d'une manière que je trouve prodigieuse.
À quel moment le titre de votre premier roman, donc, qui vient de sortir, est devenu évident pour vous, Hugo Lindenberg, « Un jour, ce sera vide »
J'avais un autre titre de travail qui était Villa Magnolia, qui faisait très série de l'été sur TF1, ouais. Et qui était pour moi le nom de la maison dans lequel le narrateur habite pendant cet été. Et puis finalement, cette phrase est venue au cours de l'écriture à propos de sa grand-mère ou du fils de la voisine qui est en train de mourir du sida, je ne sais plus. Et j'ai trouvé qu'elle c'était une phrase un peu grave pour un enfant de 10 ans, un jour ce sera vide, et qui donnait bien l'état d'esprit dans lequel il est, c'est-à-dire d'avoir cette gravité et cette conscience déjà, trop tôt, que les choses sont éphémères et qu'il arrive dans un monde qui est déjà en ruine et que lui-même ne fera qu'y passer.
Hugo Lindenberg, vous êtes journaliste, un jour ce sera vide, c'est votre premier roman. Cette envie d'écrire ce roman ou de vous lancer dans l'aventure littéraire, elle vous accompagne depuis longtemps ?
J'ai toujours beaucoup écrit, mais j'étais plus dans un dialogue solitaire et qui me satisfaisait. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai commencé à écrire ce projet, c'était tout de suite évident que c'était plus un dialogue avec moi-même, mais c'était un dialogue avec des lecteurs. Et ça faisait effectivement longtemps que j'avais envie de travailler sur ces motifs de l'enfance.
Et ce texte publié, est-ce qu'il fait écho à vos autres textes que vous avez gardés pour vous, personnels, disons ?
Oui, en tout cas, je me rends compte en relisant des choses que, comme ça, il y a ces motifs qui reviennent très fort, sous une forme, sous une autre, mais c'est comme si je pouvais pas leur échapper.
Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg, édité par Christian Bourgois. Merci beaucoup, Hugo Lindenberg, d'avoir répondu à mes questions, même si c'est à distance. Merci beaucoup, passez une bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Élise Le. Bonne journée, à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, Marie Richeux.
Prendre le temps de se pencher sur un objet artistique du moment, de le découvrir à la lumière du dialogue et des archives qui s'y nouent, approcher ce travail étrange et riche qu'est celui de l'art et de la pensée, et le faire par les temps qui courent, pendant que les temps courent, dans une époque qui forcément a des choses à nous dire, à moins que ce soit l'inverse, ou à moins que ce soit les deux.
Par les temps qui courent, avec le contre-ténor Philippe Jarouski, pour son album La Vanita del Mondo, ce lundi à 22h15 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Les éditions Radio France présentent Prenez l'antenne, un jeu de société France Culture. Intégrez les équipes des émissions et soyez le premier à remplir votre grille des programmes.
Écoutez, bon réveil et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Histoire, littérature, patrimoine, science ou encore débat d'idées, testez vos connaissances en 800 questions ou défis. Quelle est l'œuvre française la plus traduite au monde ? Quel est le plus grand pollueur du secteur numérique ? Pour jouer en apprenant, partager vos connaissances et découvrir celles des autres, l'antenne de France Culture est à vous.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mise en examen cette nuit des 4 policiers mis en cause dans le passage à tabac d'un producteur de musique à Paris la semaine dernière. 2 d'entre eux sont écroués, une affaire qui intervient alors que la colère ne faiblit pas contre l'article 24 de la loi de sécurité globale qui vient d'être votée à l'Assemblée. Plusieurs députés de la majorité souhaitent désormais que l'article soit au minimum réécrit. Nous reviendrons également sur la réouverture des commerces non essentiels ce week-end en France et puis sur le confinement bien accepté par la population en Allemagne, où l'épidémie est toujours virulente. Et puis à la fin de ce journal, cette plainte de 6 Portugais contre 33 États de l'Union européenne pour inaction climatique, une plainte qui devrait être jugée recevable par la Cour européenne des droits de l'homme. Les 4 policiers mis en cause pour le tabassage de Michel Zecler, producteur roué de coups, donc la semaine dernière à Paris dans les locaux de son studio, ont été mis en examen. Tous les 4 pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et 3 d'entre eux pour faux en écriture publique. 2 ont été écroués. Les 2 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Désormais, l'enquête est confiée à un juge d'instruction. On rappelle que ce sont plusieurs vidéos qui ont permis de rétablir des faits jusque-là niés par les policiers, des fonctionnaires bien notés par leur hiérarchie jusque-là, selon le procureur de la République. Cette sanction tombe alors que ne désenfle pas la polémique sur la loi de sécurité globale, pourtant votée il y a 10 jours, ainsi que son article 24 qui limite le droit de filmer les forces de l'ordre, un article à nouveau contesté dans la rue ce samedi. Dans la majorité parlementaire, ils sont de plus en plus nombreux à pousser pour l'abandon de cet article 24. D'ailleurs, hier soir à Matignon, les dirigeants de La République En Marche étaient unanimes face au Premier ministre. Il faut bouger sur ce texte, selon eux. Gérald Darmanin doit, lui, passer ce soir devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Va-t-il revenir sur sa position ? C'est ce qu'espère, en tout cas, l'ancienne magistrate et députée MoDem, Laurence Wisniewski. Elle fait partie des 15 députés de la majorité qui ont voté contre la proposition de loi sécurité globale. Écoutez-la, interrogée par Maxence Lambrecq.
J'entends partout sur les ondes des députés de la majorité déclarer que cette loi est mal rédigée, en tout cas surtout son article 24, et qu'il faut l'améliorer. Mais j'observe que ce sont les mêmes qui ont voté cette loi et qui l'avant-veille avaient voté le fameux article 24. Alors c'est vrai qu'il y a eu entre-temps la concomitance désastreuse entre le vote de la loi et les violences inadmissibles contre ce producteur de musique filmé par les vidéastes. Mais ceux qui ont voté l'article 24 jurent la main sur le cœur que les dispositions qu'il contient permettraient bien sûr de diffuser de telles images. Alors dans ces conditions, à quoi sert l'article 24 ? Si c'est de diffuser sur les réseaux sociaux l'adresse personnelle d'un policier, c'est évidemment déjà interdit et poursuivi pénalement du chef de menace.
La députée MoDem Laurence Wisniewski. À l'Assemblée également aujourd'hui, les députés devront se prononcer sur le budget de la Sécurité sociale 2021, un budget dont le déficit prévu explose. Il est désormais estimé à 49 milliards d'euros, alors que les cotisations futures risquent elles aussi d'être revues à la baisse, avec sans doute de forts taux de chômage à attendre dans les mois à venir. Côté dépenses, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé une enveloppe supplémentaire de 2,5 milliards d'euros, s'ajoutant à une hausse déjà prévue de 10 milliards, destinée notamment à ouvrir 4000 lits d'hôpital, des financements qui devront pourvoir également aux mesures du Ségur de la Santé et aux surcoûts liés à l'épidémie de coronavirus. La pandémie qui continue sa progression aux États-Unis, où les autorités sanitaires s'attendent à un regain d'infection suite aux fêtes de Thanksgiving, et ce alors que le pays connaît déjà un pic d'hospitalisation. Plus d'1 million de personnes ont pris l'avion dans la seule journée qui a précédé la fête de Thanksgiving jeudi dernier, un nombre record depuis le début de la pandémie. En Allemagne, le nombre de cas confirmés de contamination a dépassé le seuil du million. Le confinement est prolongé d'au moins 3 semaines, avec dans certains Länders la promesse d'un léger assouplissement pour Noël. Dans la capitale, Berlin, les nouvelles restrictions sont encore plus strictes qu'ailleurs, mais une écrasante majorité de l'opinion publique allemande accepte ces restrictions, comme en témoigne ce reportage de Ludovic Piétenu.
Ces nouvelles mesures sont acceptées par 81% de la population. Elles sont nécessaires, dit cette Berlinoise qui n'y voit aucun problème. C'est le seul moyen d'aider peut-être un peu, ajoute cet homme. Mieux vaut, dit-il, dormir 4 semaines de plus et que ce soit fini. Comme lui, 39% des Allemands considèrent qu'il ne faut pas assouplir les restrictions pendant les fêtes de fin d'année. La stratégie est jugée risquée par ce virologue à la télévision. Ce sont de nouvelles règles trop court-termistes basées sur l'espoir d'un vaccin. Il critique le fait de laisser partir les gens en vacances. Gabriel Richard Mollard, docteur en droit européen, spécialiste des questions franco-allemandes.
Il y a une acceptation des mesures publiques à partir du moment où elles sont portées par les grandes forces politiques, qui est bien supérieure à la nôtre en France. Et il y a certainement un focus au niveau de la communauté d'intérêt des individus. Par exemple, les gens qui sont dans les milieux économiques vont voir qu'il y a un intérêt à ce que les mesures soient franches pour que, à terme, l'économie puisse repartir beaucoup plus correctement que si c'était fait à moitié.
Cette très large acceptation des mesures de restriction tient aussi à la plus grande confiance de l'opinion envers ses dirigeants et en particulier la chancelière Angela Merkel.
Ludovic Piétenu. Dans l'état du Borno, dans le nord-est du Nigeria, le bilan ne cesse de s'alourdir. Il concerne des dizaines et des dizaines de paysans tués alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, sans doute par des militants islamistes. 110 seraient morts, dont plusieurs décapités. Selon Amnesty International, 10 femmes manquent également à l'appel. Aucune revendication pour l'instant, mais ce genre de massacre ressemble à ceux perpétrés par les groupes Boko Haram ou ISWAP, tous deux actifs dans la région. Depuis 10 ans, ces attaques terroristes ont fait 30 000 morts dans le pays. Cette dernière attaque est la plus violente de l'année contre des civils. Une nouvelle action en justice climatique, celle initiée par 6 Portugais qui devraient être jugés recevables aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils portent plainte contre 33 États dont la France pour n'avoir pas respecté leurs engagements climatiques. Une nouvelle plainte qui témoigne de la prise de conscience par les tribunaux de l'urgence climatique, mais aussi du fait que ce genre de contentieux dans le monde est en train de se développer. Véronique Reberotte.
Les plaignants, 4 enfants et 2 jeunes adultes de nationalité portugaise âgés de 8 à 21 ans, tiennent pour responsables 33 pays, tous ceux de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, la Suisse, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Ukraine, tous responsables de l'aggravation de la crise climatique. Ils estiment que ces pays ont échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique qui compromet l'avenir des générations présentes. La Cour européenne des droits de l'homme devrait annoncer qu'elle accorde la priorité à cette affaire en raison de l'importance et l'urgence des questions soulevées en violation de son article 3. L'article 3 stipule « Nul ne doit être soumis à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». On peut en déduire que la Cour estime que les effets du changement climatique sur les jeunes Portugais sont si graves que leur droit, selon cet article, est potentiellement violé. Les jeunes plaignants témoignent tous de leur difficulté à vivre, à respirer, dans un pays soumis chaque année à des records de chaleur et de graves incendies. Si la procédure aboutit, les pays seront légalement tenus de revoir leur plan climatique, d'accélérer leurs actions climatiques et celle aussi de leur multinationale.
Et l'on précise que la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée sur des affaires d'atteinte à l'environnement, mais jamais sur des affaires liées au climat. Retour en France où les magasins de jouets, de prêt-à-porter, les libraires ou encore les coiffeurs ont rouvert samedi, alors que le gouvernement a décidé d'augmenter les aides pour les entreprises contraintes de rester fermées. Il a également annoncé qu'il faciliterait les dérogations pour l'ouverture le dimanche pour tenter de rattraper le chiffre d'affaires perdu lors de ce mois de fermeture. En attendant, quel bilan pour ce premier week-end ? Eh bien, à peu près le même que lors du premier déconfinement, c'est-à-dire pas trop mauvais. Écoutez à ce sujet Johan Petiot, président de l'Alliance du Commerce. Il est interrogé par Laura Dulieu.
Ce que nous observons pour cette réouverture est à peu près la même situation que celle que nous avions observée lors du premier déconfinement, avec d'abord, c'est vrai, une baisse de la fréquentation, mais celle-ci est relative puisqu'on se compare au Black Friday de l'année dernière, qui avait été une très grosse journée d'activité. Donc c'est normal que la fréquentation soit en baisse cette année. Et cette fréquentation, elle s'est plutôt orientée, comme pour le premier déconfinement, sur le marché de l'enfant, qui a très bien fonctionné encore cette fois-ci. Et vers les zones d'activité commerciale, les zones d'activité commerciale qui sont en périphérie ont davantage fonctionné que les espaces clos. Ceux qui, à l'inverse, ont moins bien fonctionné, c'est en effet les centres commerciaux et les centres-villes qui ont un peu plus souffert. Les clients sont revenus vers les magasins, c'est vrai, en moins grand nombre, mais ils étaient là. Donc on est optimiste sur cette fin d'année.
Le temps de ce lundi 30 novembre, la journée sera marquée par une grisaille froide et épaisse ce matin sur la moitié nord, brouillard fréquent, parfois givrant sur le nord-est. En journée, le temps restera maussade de la Bretagne à l'Île-de-France et à la frontière belge. Sur les plaines du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel restera encombré ailleurs au sud du soleil. Les températures des gelées ce matin sur le nord comptaient au plus chaud de 3 à 7 degrés sur le nord, 7 à 12 en général sur le reste du pays. 6h40 sur France Culture, c'est le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Alors l'élection américaine a donné le spectacle d'une démocratie en grande difficulté. On l'a vu avec le nouveau déni il y a peu là, des résultats par Donald Trump. Quel sens alors accorder aux déclarations répétées de Joe Biden sur le retour d'un leadership américain en matière de démocratie ?
Oui, alors que les avocats de Donald Trump voient leur recours rejeté l'un après l'autre par les juges, son successeur a commencé à constituer sa future administration, mais, observe Gérard Haraud dans Le Point, certains à la gauche du Parti démocrate critiquent l'impression de retour vers le futur que dégage une équipe qui fleure plus un parfum de restauration que d'innovation et parle déjà d'une administration Obama 3, avec les mêmes noms et donc la même politique. Or, pour eux, c'est cette politique au centre qui a mené Trump au pouvoir. C'est pourquoi la nouvelle équipe répète sur tous les tons qu'elle sait que le monde a changé et qu'il faudrait donc proposer aux Américains des politiques nouvelles. On verra si les prochaines nominations dans les ministères sociaux le confirment. Comme le souligne Pierre Aski dans l'Obs, Bernie Sanders, le candidat malheureux de l'aile gauche à la primaire, a posé la bonne question lorsqu'il invite tout un chacun à s'interroger sur le fait que le président sortant, qui a fait plus que n'importe qui dans l'histoire américaine moderne pour saper la démocratie, a réussi à obtenir plus de 72 millions de voix. Pourquoi des démagogues, demande Pierre Aski, des leaders autoritaires, voire des dictateurs, parviennent à conserver le soutien de leur peuple sans nécessairement apporter les réponses à leurs problèmes ? Outre le moment de rupture que nous vivons dans les équilibres géopolitiques, le climat ou la démographie, l'éditorialiste insiste sur la nécessité de comprendre qu'au-delà du cas américain, ce sont les impasses et les échecs de la démocratie qui créent l'espace dans lequel prospèrent les réponses autoritaires et non pas l'inverse. Quant aux affirmations répétées sur le retour d'un leadership américain des démocraties dans sa précédente chronique, Pierre Aski mettait en garde contre le retour d'un messianisme qui a mené dans l'impasse lorsque les États-Unis et certains de leurs alliés ont voulu façonner le monde à leur idée. Et il soulignait que l'insistance sur la démocratie comme fer de lance idéologique avait un petit parfum de déjà-vu, une réminiscence de la guerre froide où personne ne contestait ce titre à Washington, si ce n'est le général de Gaulle en quittant le commandement militaire de l'OTAN, tout en restant un allié loyal. Mais ce monde est dépassé, transformé, il est devenu multipolaire, postcolonial, dans une large mesure post-occidental, et ne se résume pas à l'opposition démocratie-non-démocratie. Dans son livre au titre éloquent « Une terre promise » publié chez Fayard, Barack Obama se dit toujours inspiré par la mission d'exemplarité de son pays, même si la démocratie semble y vaciller. « Le monde observe l'Amérique », écrit-il, « la seule grande puissance à être constituée de personnes venues des quatre coins de la planète ». Et il affirme son espoir dans les jeunes générations qui tiennent l'égalité de tous les êtres humains pour une évidence et insistent pour que les principes que leurs parents et leurs professeurs leur ont enseignés deviennent réalité. Au programme du Make America Great Again, ce programme ne comporte évidemment aucune référence à cette notion tenace de destinée manifeste selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine l'expansion de la civilisation dans le monde, et pour cause. Lui ayant permis d'accéder au pouvoir, la démocratie n'était qu'un marchepied pour les ambitions personnelles de Donald Trump. Ses dernières décisions l'illustrent parfaitement. Après avoir accordé l'amnistie, entre autres, à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, accusé d'avoir menti au FBI dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle. Le président américain a aussi demandé à plusieurs reprises à ses collaborateurs s'il pouvait accorder des amnisties présidentielles pour lui-même et les membres de sa famille, et s'il pouvait les accorder de manière préventive, rapporte CNN relayé par Courrier International. L'ex-président, encore en exercice, est impliqué dans au moins 6 affaires, notamment fiscales. Ça ne l'empêche pas de hâter, par le biais de son dévoué ministre de la Justice, les exécutions capitales de condamnés dans le couloir de la mort, contrairement à la tradition selon laquelle les présidents sortants non réélus sursoient aux exécutions ou convertissent les peines des condamnés à mort. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui au programme, cette question, la crise sanitaire internationale a-t-elle sapé les moyens de lutte contre le sida ?
Eh bien oui, d'après l'ONU Sida, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, demain 1er décembre, l'ONU Sida le dit, le Covid-19 a encore aggravé le retard déjà pris par la riposte au sida. Les objectifs 2020 ne seront pas atteints. Il faut, dit cette agence de l'ONU, tirer les leçons d'un financement insuffisant de la santé. Et c'est vrai que cette année, tous les financements et toute l'attention ont été focalisées sur le coronavirus. Bonjour Paul Ben Ki-moon. Bonjour, êtes-vous avec nous, Paul Ben Ki-moon ?
Oui, oui.
Oui, bonjour, vous étiez jusqu'à il y a peu rédacteur dans le service Sciences et Médecine au Monde. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la lutte contre les épidémies et les maladies infectieuses. Est-ce qu'on peut déjà reprendre dans le détail le tout dernier rapport de l'ONU SIDA publié pour la journée internationale de lutte contre le sida de demain ? 700 000 morts du sida cette année, 1 million de nouvelles infections. Ce serait bien plus que les modélisations, les projections, ce qu'elles anticipaient pour 2020. Quelles étaient ces projections ?
Alors les projections, en gros, si on part de l'année dernière, 2019, il y avait effectivement 700 000 morts et 1 700 000 nouvelles infections, mais les modélisations qui ont été faites pour l'ONU SIDA indiquent que le nombre de nouvelles infections pourrait être majoré de l'ordre de 120 000 jusqu'à 300 000, donc nouvelles infections supplémentaires par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, et le nombre de décès pourrait être accru de 70 000 à 150 000 décès supplémentaires par rapport aux attentes. Donc c'est un impact qui est tout à fait sérieux, mais qu'on imagine bien quand on voit à quel point le Covid a bouleversé le monde.
Voilà pourquoi l'ONU SIDA fait-elle un lien direct avec le coronavirus ? En quoi l'apparition du Covid-19 aurait provoqué ce rebond de l'épidémie du sida ?
Alors en fait, ce qu'on a pu constater, enfin ce que l'ONU SIDA a pu constater, c'est que il y a eu une perturbation de la capacité à pouvoir continuer les programmes en cours, c'est-à-dire que il y a eu des difficultés dans un certain nombre de pays pour des chaînes d'approvisionnement. Il y avait des campagnes de dépistage qui ont été altérées parce que il y a eu du confinement, il y a eu le couvre-feu, ce qui fait que toutes les actions de prévention, d'information qui pouvaient être faites dans des lieux où se rassemblent des gens, et notamment les personnes qui seraient les plus à risque de contracter le VIH, des homosexuels, des travailleurs et travailleuses du sexe et autres, on voit qu'il y a une grande difficulté déjà à atteindre ces populations en temps usuel. Par les temps de Covid, c'est encore plus difficile. Donc ça a perturbé non seulement les tests, mais même dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, dans d'autres pays d'Afrique comme le Lesotho, la Sierra Leone, mais aussi en République Dominicaine, l'ONU SIDA a constaté que ça a sapé la mise sous traitement antirétroviraux, c'est-à-dire qu'il y a eu des baisses, à la fois, c'est pas le cas dans tous les pays, mais il y a des baisses dans certains pays, des niveaux de tests et donc de mise en route d'un traitement antirétroviral.
Alors pour les pays riches en France, les médecins disent que les traitements antirétroviraux ont continué à être distribués selon à peu près les proportions habituelles. En revanche, on a beaucoup moins délivré pendant le confinement de médicaments préventifs utilisés en prophylaxie pré-exposition, ce qu'on appelle la PrEP, 36% de moins pendant le confinement par rapport aux années précédentes. précédente. Bon, c'est aussi dû à la baisse des rapports sexuels en période de distanciation sociale, Paul Benkimoun, mais aussi parce que les équipes en infectiologie des hôpitaux étaient occupées par le Covid, les personnels étaient occupés par le Covid.
Évidemment, le Covid a obligé à réorienter toute une série de à la fois de structures, de lits, mais aussi de personnels qui sont là pour les faire fonctionner. Et de ce fait, il y a une moins grande disponibilité, bien évidemment, comme pour d'autres maladies d'ailleurs. Il n'y a pas que le VIH qui a subi ce type d'impact. Le Covid a cannibalisé les forces des systèmes de santé. Et de ce point de vue-là, ça soulève, c'est ce que d'ailleurs fait l'ONU SIDA, le fait de dire, si on avait renforcé davantage les systèmes de santé, les soignants, les dispositions, les capacités à mener des actions de prévention ou des actions de type prophylaxie, comme vous le citiez, le monde aurait été un peu mieux préparé face au Covid.
Alors, le Covid a peut-être ralenti la lutte contre le sida, mais elle était déjà en retard, cette lutte, avant même l'apparition du coronavirus. Les objectifs dits de développement durable énonçaient des objectifs donc d'éradiquer l'épidémie de sida d'ici à 2030, en tout cas de faire en sorte qu'elle ne constitue plus un problème de santé publique mondiale. Où est-ce qu'on en est des investissements dans la maladie? Quelles sont les promesses énoncées? Qui les a tenues surtout?
Alors, d'une certaine façon, c'est très disparate. C'est-à-dire que là, on ne peut plus raisonner en termes de continents ou de grandes régions, puisque il y a eu des pays. On peut citer l'exemple de l'Afrique du Sud qui a par le passé, avait un retard considérable dans la mise en route de l'accès au traitement, l'accès à la prévention, et qui s'est largement rattrapé pas depuis. Mais il y a plutôt les exemples, malheureusement, que cite souvent l'ONU SIDA, ce sont des petits pays. On cite le Lesotho, le Swaziland, enfin l'ancien Swaziland, le nom a changé depuis. Mais en fait, il y a toute une catégorie de pays qui sont à la traîne, et c'est un peu dispersé, ce sont des politiques nationales. Mais surtout, ce qui reste inquiétant pour l'ONU SIDA, par rapport aux objectifs du développement durable qui concernent cette maladie et la tuberculose, ça va de pair, les plus grosses inquiétudes concernent l'Europe orientale et l'Asie centrale, c'est le regroupement qu'effectue l'OMS, où entre 2010 et 2019, on a accru de plus de 70% le nombre de personnes infectées. Et puis d'autres régions comme en Amérique latine, mais de façon un peu disparate, et au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, là aussi l'épidémie continue de progresser, alors que les objectifs étaient un peu se rapprocher pour les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple.
Et est-ce qu'on peut dire pourquoi l'épidémie progresse autant dans des chiffres que vous avez donnés, plus de 70% entre 2010 et 2019, en Russie, en Europe de l'Est, pourquoi ?
En Russie, manifestement, c'est le manque de volonté. Les autorités n'ont jamais véritablement pris en compte les nécessités de la lutte, car le VIH, encore une fois, quand on regarde les populations vulnérables, ce sont d'une part les femmes, les jeunes filles, d'autres populations encore plus marginalisées, comme des usagers de drogue, c'est beaucoup le cas, ou des personnes qui se livrent à la prostitution. Et de ce fait, les difficultés viennent de ce que les initiatives prises dans ce domaine ont été isolées localement des associations, et jamais, contrairement à ce qui s'est passé en Chine, où après des périodes de déni, les autorités ont décidé de prendre à bras le corps l'épidémie, là en Russie, c'est toujours pas le cas. Donc on continue sur une trajectoire d'augmentation de l'épidémie qui est spectaculaire et tragique.
Alors, il y a quelques bonnes nouvelles. Médecins sans frontières, par exemple, disait récemment sur une région dans laquelle cette ONG travaille particulièrement, c'est au Kenya, dans le sous-comté de Ndiawa, qui a eu pendant des années l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés dans toute l'Afrique. Eh bien, entre 2014 et 2018, les efforts mis dans un meilleur accès au dépistage et au traitement ont permis de considérablement baisser le pourcentage de la population vivant avec le VIH dans cette région. Pour ce qui concerne Paul Benkimoun, également la question de l'accès au traitement et bientôt pour le Covid-19 à un vaccin. L'ONU-SIDA rappelle que des millions de personnes sont mortes du sida faute d'avoir accès aux thérapies existantes. Il est impératif, dit l'ONU, de tirer les leçons de cet échec dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce que vous avez l'impression pour l'instant, et alors que vient d'éclater ce nouveau scandale du laboratoire Gilead qui a vendu quand même son remdesivir à toute l'Europe alors que ça n'avait aucun effet sur le coronavirus, est-ce que certaines leçons vont commencer à être tirées?
Ben, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on peut dire, on peut l'espérer, parce que cette fois-ci, les États, pas seulement les États, au-delà des États,
l'OMS aussi,
privés, les institutions, bien sûr, ne comprennent pas que on ne peut pas se débarrasser d'une pandémie sans une mobilisation mondiale, sans un travail en direction des communautés les plus touchées et sans rendre les progrès médicaux accessibles au plus grand nombre, c'est à désespérer, parce que le Covid en fournit une démonstration claire, c'est-à-dire que quand on se mobilise, on peut obtenir des résultats, et quand on se coordonne, c'est ce qui s'était passé avec la création du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais on voit bien évidemment que ça soulèvera des questions de où est-ce qu'on alloue des fonds, des financements, et c'est le plus dangereux serait de considérer qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Parce que je pense que ce sera la preuve que les États et les différents acteurs n'auront pas compris les enjeux. Donc voilà, moi je me prononcerai pas pour dire si je suis optimiste ou pas, mais je pense que malgré tout il y a des progrès qui font que on ne repart pas à la case départ à chaque fois.
Notamment pour certains vaccins, certains seront beaucoup moins chers que d'autres, avec des accords qui ont été signés pour que pendant la durée de la pandémie, en tout cas le coût soit plus raisonnable. En tout cas, merci beaucoup Paul Benkimoun d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, je mets sur la page du site des enjeux internationaux les ouvrages que vous avez écrits sur ces questions. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'histoire de la French Connection comme vous ne l'avez jamais entendue.
Tout le monde y gagne, même les journalistes y gagnent. Je dis aujourd'hui avec une certaine forme de dérision, moi-même, mais je vis de la drogue, tout le monde y gagne.
Vous avez dit la French ? Entre les années 50 et 70, un gigantesque trafic d'héroïne entre France et États-Unis. French Connection, Marseille, Montréal, New York, une collection de podcasts originaux coproduite par France Culture et Radio-Canada, l'histoire de filières méconnues de la French en retrouvant des témoins et des acteurs clés des deux côtés de l'Atlantique sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était sans pitié, sans pitié.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Herbert.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, il y a pire que le travail quand même.
Et oui, la télé. Réunion de travail. Si le monde de l'entreprise était rationnel, ça se saurait, mais heureusement, pour leurs concurrents, les entreprises ne sont pas tenues de prendre les bonnes décisions, de travailler de manière efficace. La preuve de tout ça, pendant de longues années, la réunion de travail. Mais depuis le confinement, beaucoup ont eu l'occasion de s'en rendre compte. Il y a pire donc que le travail, pire que la réunion de travail, le télé-réunion de travail. Le mot travail, c'est connu, a de vagues origines latines qui signifient torture, mais il y a désormais un mot pour désigner le mot torture. En anglais, ça se dit zoom, le zoom, l'ultime manière que les entreprises ont trouvé pour user leurs collaborateurs. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que ces entreprises de démolition depuis quelques années déjà se font souvent via un programme. Vous savez, il y a eu la cruauté Excel, où il fallait reporter le moindre fait et geste sur un tableur, et puis le délire PowerPoint, où tout discours creux, inepte, devait être illustré avec des slides infantilisants. Maintenant, il y a Zoom, ou la possibilité de retrouver ses collègues en contre-plongée, grimaçant dans une sorte de film d'horreur digne de Vendredi 13, sauf que ce Vendredi 13 est diffusé du lundi au vendredi. Du coup, le confinement est dominé par un livre, The Surprising Science of Meeting, la science surprenante des meetings, signé Steven Rogelberg, un livre qui est au monde de l'entreprise par temps de Covid, ce que la méthode de rangement de Marie Kondo est à l'univers domestique. Steven Rogelberg, comme tous les consultants de génie, a compris qu'il y avait un problème avec les réunions, que tout le monde détestait les réunions et qu'il pouvait vendre des milliers de livres de management en nommant un problème sans forcément trouver de solution. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont d'abord les entreprises qui devraient haïr les meetings. Un cadre participe en moyenne à 12 réunions par semaine. Chaque salarié s'enfade au moins 8, dit le Financial Times aujourd'hui. Le temps perdu en réunion se chiffre à 2 500 € par salarié et par an. Mais puisque nous sommes le lundi, je vous propose de monter des réunions pour essayer de voir comment on pourrait les supprimer, ces réunions.